descendu.
L'ange est descendu.
Il roulait la pierre.
Il roulait la pierre.
Alléluia.
À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, ô éternité.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons merci pour votre participation et nous allons toujours de l'avant dans notre vie spirituelle afin que nous participions au vin nouveau dans le royaume des cieux avec notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, toi qui nous as donné la vie par la mort de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour la participation de chacun de nous. Et nous continuons toujours à nous remettre entre tes saintes mains afin que nous sortions victorieux de ce monde pour qu'un jour nous soyons parmi ceux-là qui vont participer avec toi dans le royaume des cieux. Béni sois-tu, Seigneur, et bénis ces moments pendant lesquels nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous voulons lire la parole de Dieu dans la première lettre de Pierre, la parole de Dieu dans la première lettre de Pierre. 1 Pierre chapitre 1er, nous lisons du premier verset jusqu'au 9e. Je vais lire au nom du Seigneur. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, Cappadoce, l'Asie et Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour et peu de temps par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez, sans l'avoir vu, à qui vous croyez sans le voir encore, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes par le prix de votre foi, parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, nous voulons partager ensemble un sujet que j'ai intitulé de la manière suivante, après avoir médité ce passage. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, source d'une espérance vivante pour le croyant. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, source d'une espérance vivante pour le croyant. Par la mort et la résurrection de Jésus, le croyant a une espérance vivante, c'est-à-dire qu'il a la victoire sur la mort. En d'autres termes, il a la vie éternelle. C'est ce message que l'apôtre Pierre a transmis aux membres de l'Église persécutés et dispersés dans les provinces romaines de l'Asie mineure qu'on a citées au premier verset. En effet, la mort et la résurrection de Jésus est une bonne nouvelle. Ce message de joie, de consolation, d'encouragement, de réconfort pour les chrétiens qui vivent dans un monde malade, dépravé, un monde athée. C'est le même message que nous voulons partager ensemble pendant cette fête pascale, car les jours sont mauvais. En fait, dans le contexte qui est le nôtre, les événements auxquels nous assistons plongent tout le monde dans la certitude de vivre. Mais à travers le message pascal du jour, nous voulons nous encourager mutuellement et fortifier notre foi commune afin de tenir ferme jusqu'au bout de notre séjour sur cette terre. Pour bien saisir l'essentiel de notre message, je vais l'expliquer à trois niveaux. Je vais d'abord parler brièvement de la vie de l'apôtre Pierre. Ensuite, je vais parler de l'identité de ce destinataire, qui sont-ce ? Et enfin, donner le sens biblique d'une espérance vivante. La vie de l'apôtre Paul. Je vais parler brièvement de la vie de l'apôtre Pierre. l'auteur de la lettre se présente lui-même comme étant Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Et il précise qu'il a été témoin des souffrances de Christ. Quand vous lisez le chapitre 5, verset 1er, il parle, il dit qu'il a été témoin de la souffrance ou de souffrance de Christ. Appelé Simon ou Siméon, Pierre était le fils de Jonas. Il était membre d'une famille de pêcheurs, Wavugaji Wasamaki, et qui habitait à Bethsaïda. Leur village d'origine, c'est Bethsaïda, mais il est allé vivre à Capernaum. Bethsaïda et Capernaum, deux villages au bord du lac de Galilée. Il y a des versets que je ne vais pas citer. C'est son frère André qui les conduisit en Christ. Il était marié. Et il semble que sa femme l'accompagnait dans son ministère. Souvenez-vous qu'un jour, Jésus a visité la maison. Il a été dans la maison de Simon et sa belle-mère était malade. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il était marié. Et dans sa vie de ministère maintenant, Christ l'a appelé, il l'appela de le suivre dès le début de son ministère. Il a été le premier à confesser que Jésus est le Messie. Il a posé la question à ses disciples, les gens dans le quartier. Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Ils ont dit que certains disent que vous êtes Jérémie, que vous êtes Élie, que vous êtes l'un des prophètes. Il a posé maintenant la question à ses disciples. Et vous, que dites-vous de moi? C'est lui qui a confessé le premier que Jésus est le Fils unique de Dieu, le Fils de Dieu vivant. Il a reçu une formation spéciale parce que Dieu savait le rôle que Pierre va jouer après son départ sur la terre. Pas seulement lui, mais aussi avec les autres disciples et surtout Jean et Jacques. Un jour, au sommet de la montagne, Jésus a été transfiguré. Et une voix s'est entendue. Voici mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Il était le porte-parole des 12. C'est lui qui exprimaient leurs pensées. Ils ont dit un jour, ils ont posé la question. Ils se disaient entre eux, cet homme, ce type, nous le suivons, nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous aurons? Qu'est-ce qu'il va nous donner? Nous avons abandonné nos métiers. Qu'est-ce que nous aurons? Alors c'est lui qui a eu le courage de poser cette question à Jésus. Voilà, nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que tu vas nous donner? Il avait le sang chaud. Il n'avait pas peur de s'adresser à son maître. Et il a reçu une réponse appropriée à cette question. Un jour, il a renié son maître. Mais il s'est repenti. Il a renié son maître, mais il s'est repenti et il est devenu un grand apôtre. Deux choses ont marqué sa vie. Deux choses ont marqué sa vie. La mort de Jésus. Parce que quand il a confessé que Jésus est le Messie, Jésus a directement commencé à préparer ses disciples pour leur montrer qu'il va bientôt mourir. Et ils ne croyaient pas à la mort parce que nous allons voir la suite, la raison pour laquelle il n'a pas été d'accord avec ça. Il a aussi été marqué par la résurrection, marqué par deux choses, la mort et la résurrection de Jésus. Après la résurrection, l'apôtre Pierre a été un grand prédicateur de l'évangile du Christ. Le jour de Pentecôte, il a pris la parole, il a annoncé l'évangile. Et il y a eu environ 3000 âmes qui se sont converties au Seigneur. C'était un grand prédicateur. Selon la tradition, ce n'est pas écrit dans la Bible. Selon la tradition, il a été obligé d'assister à la crucifixion de son épouse. La tradition dit que Pierre a encouragé son épouse en ces mots. Souviens-toi du Seigneur. Selon la même tradition, son tour vint pour être mis à mort. Il a affirmé être indigne d'être crucifié comme son Seigneur. Et il a demandé d'être crucifié la tête en bas. Et on avait accepté sa demande. C'est d'une façon générale la vie de Pierre. L'identité de ses destinataires. Dans cette lettre, Pierre donne trois noms à ses destinataires. Au verset 1 et 2, ce sont des étrangers élus, dispersés, nous l'avons dit, dans les provinces romaines de l'Asie mineure. Au chapitre 2, verset 11, il les appelle de voyageurs. Ces trois noms désignent les mêmes personnes, tout en conservant chacun ses particularités. Pierre, en désignant ainsi ce lecteur, il veut leur rappeler que la vie chrétienne s'effectue dans un monde qui s'oppose au plan de Dieu. Dans ce contexte, la persécution ou la souffrance des enfants de Dieu ne devrait pas être considérée comme une surprise. Et donc, c'est quelque chose de normal à laquelle nous devons nous attendre à tout moment. Ceux qui prêchent l'évangile de la prospérité égare les gens. Parce que même celui que nous suivons, il a beaucoup souffert. Depuis que vous êtes ici, vous êtes en train de chanter ses souffrances. Il a beaucoup souffert pour nous. Il a dit, celui qui veut venir après lui, qu'il porte quoi? Sa croix. Toutefois, je voudrais attirer votre attention sur le mot élu. Élu, En fait, ce sont les élus de Dieu qui sont considérés comme des étrangers et des voyageurs dans ce monde. Les élus. Et ce mot souligne la nationalité étrangère et la résidence temporaire. Effectivement, au sein d'une société païenne, les chrétiens dont la citoyenneté est dans les cieux vivent comme des étrangers et voyageurs, des personnes déplacées dont les pensées devraient souvent se tourner vers leur véritable demeure. Le slogan qui est à la une dans ou sur les réseaux sociaux, c'est la patrie ou la mort. La patrie ou la mort. C'est ce que devrait être le slogan des enfants de Dieu. Et notre patrie, je vais vous le montrer. Parce que j'ai été un jour dans le cas de déplacer de Lushagala. Alors, j'ai visité les membres de notre église. Les mamans n'avaient qu'un seul souci. Pasteur, nous devons rentrer chez nous. Ils réalisaient que le cas n'est pas leur demeure. Ils ont été forcés d'être dans ces conditions. Leurs esprits étaient dans leur village d'origine. Nous avons aussi un village d'origine. Alléluia. Alléluia. Nous sommes de passage. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes des étrangers. Nous sommes des étrangers sur cette terre. L'Église est le peuple de pèlerins sur la terre. Ce monde qui est mauvais. Elle y vit à diaspora. On parle des Congolais de la diaspora qui vivent dans d'autres pays, en Europe, aux États-Unis. Nous sommes comme des exilés de Babylone. Notre patrie n'est pas sur la terre. Ce n'est pas cette terre, ce n'est pas ce monde, mais notre patrie, c'est le ciel. Alléluia. C'est dans ces conditions que Pierre rédige cette lettre d'espérance joyeuse pour donner aux enfants ou aux croyants une perspective divine et éternelle concernant leur vie sur la terre. Et les encourage en leur disant qu'ils ont été choisis. Ils ont été choisis par Dieu le Père. Pour dire vrai, alors Jésus disait, en vérité, pour dire vrai, notre salut et notre assurance reposent sur le choix libre et plein de grâce du Seigneur Tout-Puissant. Aucune preuve, aucune persécution ne peut enlever la vie éternelle à ceux qui croient à Jésus-Christ. Aucune. Vous avez la vie éternelle, vous l'avez une fois pour toutes. Alléluia. Alléluia. La vie éternelle, c'est le salut, c'est la régénération spirituelle, c'est la nouvelle naissance. Les croyants sont choisis. Si vous êtes croyant, si vous êtes à Christ, il faut vous rassurer que vous avez été choisis par Dieu. Alléluia. Ils sont choisis, mais bien entendu, pas contre leur volonté. Dieu ne ramasse pas les gens pour les mettre dans son royaume. Non. La certitude de l'élection est conditionnée par la vie de foi en Jésus-Christ. Et à la persévérance dans la communion avec lui. Ici, il y a des mots qui interagissent. Nous avons l'élection et la prédestination. L'élection et la prédestination. L'élection, c'est le choix d'un peuple en Christ. Pour Dieu, par Dieu et pour lui-même. Quand Dieu veut voir son peuple, il voit Jésus. Il ne voit pas tout le monde, il voit Jésus. Si vous êtes à Jésus, vous appartenez au peuple élu du Christ. Si vous êtes à lui, quand Dieu veut voir son Église, Jésus se met devant lui. Tous ceux qui sont à lui appartiennent à Dieu. Tous ceux qui sont à lui appartiennent à Dieu. Ils sont élus. La prédestination fait référence à ce qui arrivera en peuple élu de Dieu. Qu'est-ce qu'ils deviendront, ces gens-là? Ils sont destinés à devenir quoi? À devenir comment? Alors la Bible répond que ceux qui sont en Christ ont été appelés. Ils ont été appelés par la prédication de l'Évangile. Ceux qui ont répondu à cet appel ont été justifiés. Ils ont été justifiés. Ils ont été sanctifiés. C'est l'œuvre de Dieu. Et ils seront glorifiés. Ils vivront dans la présence éternelle de Dieu. C'est ça la prédestination. Ce n'est pas un choix d'avance. Non. Mais qu'est-ce que ceux qui sont à Christ deviendront? Ils sont appelés. Ils sont justifiés, ils sont glorifiés. C'est difficile. Je vais essayer d'expliquer par une illustration ces deux concepts. Nous pouvons nous référer à l'image des grands bateaux faisant route vers le ciel et son capitaine. Le bateau et son capitaine. Le bateau, c'est l'Église, peuple bien-aimé de Dieu. Christ est le capitaine. Il pilote le bateau. Ceux qui désirent faire partie de ce navire et dépendre de son capitaine peuvent le faire. En présentant leur carte d'accès à bord, à savoir la foi à Jésus-Christ. Si vous avez la foi à Jésus-Christ, vous avez le billet. La porte du ciel est ouverte pour vous. La foi à Jésus-Christ. Pour pouvoir faire partie des élus, nous devons être unis au capitaine et au navire. La prédestination, quant à elle, renvoie à la destination première de ce navire et à ce que Dieu a préparé pour ceux qui sont à bord. Dieu invite tout le monde à monter à bord de ce bateau-là qui est l'Église. Alléluia. Tout le monde, sans exception, sont invités à monter à bord à ce navire élu au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ceux qui décident d'abandonner le navire et son capitaine s'excluent eux-mêmes de ce grand groupe d'élus. C'est lui qui abandonne, c'est celui qui s'exclut lui-même, mais Dieu évite tout le monde. Quel est le sens biblique de l'espérance vivante? En rapport avec la mort de Jésus, nous pouvons retenir trois attitudes. Avant la mort, les disciples espéraient que Jésus était celui qu'on attendait pour le salut d'Israël. En fait, ils partageaient la croyance populaire de l'époque selon laquelle le Messie devait libérer Israël de la servitude des Romains. Pour les Israélites, le Messie ne peut jamais mourir. Ça, c'est la première conception. Le Messie, le libérateur, c'est lui qui vient libérer le peuple de Dieu, ne peut jamais mourir. C'est pourquoi la mort de Jésus a été une grande déception, une désillusion, une frustration, un découragement et un désespoir. Jésus en mourant, les disciples ont été convaincus qu'ils se sont trompés à les confesser comme Messie. Ils se sont trompés. Pour eux, le Messie qui meurt n'est pas le Messie. C'est un messieur. Un messieur comme tout le monde. Hein? Un messieur. Un Messie qui meurt. C'est un messie. C'est la deuxième attitude. Mais, dans notre confession de foi, mais trois jours après sa mort, Jésus ressuscita. Alléluia! Trois jours après, il est ressuscité. En les voyant ressusciter, les disciples ont eu une nouvelle conception sur le Messie. Par sa résurrection, ils ont compris que le Messie meurt, il ressuscite. Alléluia. Il meurt, mais la mort n'a pas de pouvoir sur lui, il ressuscite. Aussi, la résurrection de Jésus a été un sujet d'une grande. Quand la chorale nous demande de pousser des cris de joie et je vois que les gens sont en train de sautiller, hein? Moi-même, je suis content. Moi, je suis retraité. J'ai difficile de me mouvoir comme vous. Mais dans mon cœur, nous devons pousser des cris de joie. pour celui qui est ressuscité. Parce qu'il a dissipé la honte. Ce sont des gens qui disent, mais nous avons aimé si quand il est mort, c'était la fin de leur espérance. Alors l'apôtre Pierre dit que leur espérance a été renouvelée par la résurrection de Jésus-Christ. De la même manière, en Christ, nous sommes sauvés. Alléluia. Et donc, nous vivons dans l'espérance de la vie éternelle. Nous vivons dans la perspective, dans l'espérance de la vie éternelle. Cette espérance, elle est vivante, c'est-à-dire c'est une espérance sûre, certaine et réelle, car elle a été planifiée par Dieu avant la fondation du monde. Dieu m'a connu, il vous a connu avant la fondation du monde. C'est accordé par la grâce. Nous ne fournissons aucun effort. Dieu lui-même réalise ce travail pour nous. Garanti par la résurrection de Jésus-Christ. Certifié dans la vie des croyants, des chrétiens, par le Saint-Esprit. Les chrétiens qui sont ressuscités avec Jésus ont l'espérance de la vie éternelle et une couronne de la gloire les attend. La nouvelle naissance est le plus grand cadeau que Dieu puisse donner à l'homme. La vie éternelle est un héritage inestimable. Et si, à la souffrance, nous réagissons comment? À la souffrance, nous réagissons par la confiance que Dieu connaît, planifie, oriente notre vie pour le mieux. Akiswahili peut dire que kesho yetu ni nzuri kuliko leo. Kesho yetu, pour ceux qui sont en Christ. Kesho yao, même s'ils peuvent traverser des zones de turbulence. Kesho yetu ni nzuri kuliko leo. Nous avons une espérance vivante. Une espérance vivante fondée sur la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi, dans ces épreuves, nous devons persévérer. Nous devons persévérer. Je vous demande de prendre courage. Parce que nous allons bientôt atteindre notre destinée. Prenez courage, mes frères et sœurs. Prenez courage. Ne vous découragez pas. Nous sommes dans un monde, nous sommes des étrangers. Nous sommes des voyageurs. Ce qui nous arrive, ce n'est pas une surprise. C'est normal, nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes en train d'aller, nous sommes en marche. Aller chez nous, là où le lieu que Christ a préparé pour ses enfants. Restez ferme dans toutes les circonstances. Trois vérités à retenir. La foi à Christ ressuscité apporte à la fois le salut. Nous avons la vie éternelle et la promesse des jours nouveaux où la souffrance prendra fin. La souffrance, les larmes. Un jour, Jésus va essuyer nos larmes. Et nous serons dans la félicité. Celui qui n'a pas cette espérance, il ne peut pas persévérer. Il sera abattu. Ça, c'est la première vérité. La deuxième, la victoire sur les épreuves montre notre foi, montre que notre foi est authentique. Les gens qui ont une foi originale, ils ont la victoire sur les épreuves. Mais ceux qui ont des fois piraté, hein, ils tombent. C'est la montre. La preuve est que nous sommes assurés que notre demeure sur le ciel. C'est la victoire sur les épreuves. Parce que nous avons une foi fondée sur le Christ ressuscité. La joie des chrétiens est indépendante des circonstances. Même la maladie ne peut pas voler cette espérance vivante à nous. Nous souffrons tout en ayant cette espérance. Nous souffrons. C'est pourquoi beaucoup de gens, maman et papa, meurent dans cette espérance, avec cette espérance. Vous trouvez quelqu'un en train de souffrir, en train de traverser un moment difficile, mais à lui, j'ai appris cette leçon avec le professeur Kamba le Kandik. Souffrant, mais quand vous causez avec lui, vous vous rendez compte qu'à lui, il y a une espérance. Espérance vivante. Troisième vérité, la joie des chrétiens est indépendante des circonstances. Mes frères, sans l'avoir vu, vous savez que Thomas a dit que moi je ne peux pas croire sans l'avoir vu. Je ne peux pas. Les autres disciples, Jésus s'est déjà révélé à eux, sauf à Thomas. Et Thomas a dit, moi, si je ne vois pas l'endroit où on a, je ne peux pas croire. Et Jésus a dit, heureux ceux qui vont croire savoir. Heureux, heureux, c'est nous. Il a parlé de moi, il a parlé de toi. Toi qui crois sans l'avoir vu. Sans l'avoir vu, nous l'aimons. Nous l'aimons. C'est qui? Votre Jésus. Sans l'avoir vu, nous l'aimons et nous le servons. Nous le louons. Nous nous consacrons à lui. Sans l'avoir vu. Vous l'avez déjà vu? En conclusion, l'apôtre Pierre rappelle aux croyants de tous les temps que nous avons reçu un appel glorieux et un héritage céleste. Notre foi et notre amour sont sujets aux épreuves ou sujets aux épreuves, mais à l'apparition de Jésus-Christ, nous obtiendrons louange, gloire et honneur. Les gens nous détestent, les gens ne nous comprennent pas, mais nous avons une destinée meilleure. Ça, nous le savons. C'est ancré dans nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Et alors, pendant ce temps, quand les gens pillent les biens des autres, quand les gens sont en train de maltraiter les autres, quand les gens sont en train de tuer, de massacrer les autres, nous devons mener une vie sanctifiée. Une vie sanctifiée. En nous démarquant clairement du monde dépravé qui nous entoure. Nous devons vivre autrement. L'Église, peuple élu de Dieu, va parvenir à destination malgré les zones de turbulence qu'elle est en train de traverser, parce que le ressuscité est celui qui pilote ce grand bateau que nous avons appelé l'Église. Que la grâce et la paix venant de Dieu vous soient multipliées.